lutte à l'intérieur du parti bolchevique. On va passer maintenant à genèse et destruction de la classe ouvrière. Alors, c'est un peu mystérieux pour moi, mais je vais découvrir ça avec vous, puisque je ne connais pas trop bien le travail de M. Despréteaux. À vous.
Alors, j'expose la thèse suivante. La classe ouvrière russe, telle qu'elle s'était constituée avant 1914, a été détruite après la révolution de 1917 sous l'effet convergent de facteurs divers. C'est ce processus que je voudrais décrire ici. À partir de 1895 environ, les ouvriers russes ont commencé à se percevoir comme un groupe à part, ayant ses représentations, ses intérêts et son comportement propre. Ce phénomène a été constaté par les représentants du pouvoir et les directions d'usines. Le temps manque ici pour retracer même rapidement ce processus de constitution d'une classe ouvrière dans l'Empire tsariste. Je vais me contenter d'un rapide résumé. Avant 1905, les protestations ouvrières avaient été relativement limitées. La tempête de 1905 n'en est que plus impressionnante. Selon l'inspection des fabriques, presque 2,9 millions de prolétaires ont participé à des grèves cette année-là. On vit alors se développer des organisations ouvrières légales, syndicats, coopératives, clubs d'éducation et d'auto-formation. De ce point de vue, il pouvait sembler que la Russie était en train de s'engager sur la voie déjà parcourue par l'Europe occidentale. Mais le coup d'État de Stolypine en 1907 inaugure une période de répression sévère. L'apathie s'empare de presque toutes les couches de la société russe et gagne la majorité des ouvriers. Mais dès la fin de 1910, on assiste à une modeste reprise des débrayages liés au retour de la croissance. Mais c'est le massacre de l'ALENA en 1912 qui provoque une énorme vague de grève de solidarité. Par ces actions, les ouvriers cherchent à faire respecter leur dignité de travailleur et d'être humain. Ils exigent notamment que les contremaîtres se montrent polis. Le déclenchement de ces grèves de solidarité peut être considéré comme un phénomène spontané, dans la mesure où il n'a été ni influencé par une organisation, ni dirigé par des révolutionnaires clandestins. De 1912 à 1914, le nombre de grévistes n'a fait que s'accroître. Il a atteint le chiffre de 1 337 000 personnes pour les 6 premiers mois de 1914. La vague de grève de 1912-1914 n'a pas bénéficié aux Mencheviks, qui à partir de 1907 avaient concentré leurs efforts sur la construction d'un mouvement ouvrier à l'européenne, doté d'organisations agissant au grand jour, syndicats, coopératives, fonds d'assurance, etc. À partir de l'été 1913, les Mencheviks condamnent la passion de la grève, qu'ils considèrent comme suicidaire, et son utilisation par les bolcheviks. Au même moment, ils commencent à signaler l'irruption dans les organisations légales de jeunes ouvriers qui contribuent à radicaliser le mouvement ouvrier et à renforcer leur niveau bolchevique. À la veille de la guerre, les bolcheviks dirigeaient 10 syndicats sur 13 à Moscou et 14 sur 18 à Saint-Pétersbourg. Ils les utilisaient comme couverture de leur action clandestine. Au total, en 1914, la social-démocratie exerçait une puissante influence sur le monde ouvrier. De tous les partis politiques de Russie, c'est le parti social-démocrate qui avait la base de masse la plus impressionnante. Ce fait doit être replacé dans le contexte plus large de la double polarisation sociale qu'a connue la Russie des années 1912-1914. D'une part, la société privilégiée, incluant la grande majorité de l'intelligentsia, s'est détachée du régime tsariste. D'autre part, un abîme s'est creusé entre cette élite cultivée et un monde ouvrier de plus en plus mobilisé, en révolte contre l'autorité et animé d'un vif sentiment de solidarité. Les prolétaires russes avaient le sentiment de former une communauté et éprouver une hostilité croissante envers les fonctionnaires, les patrons, la bourgeoisie, tous les gens au pouvoir. Il est permis d'affirmer qu'ils forment une classe, et une classe mobilisée. À ses débuts, la guerre a provoqué un élan d'unanimité patriotique dans la société éduquée, mais aussi dans une partie importante de la classe ouvrière. De ce fait, le parti bolchevique a connu de sérieuses difficultés, aggravées par les arrestations et les départs de militants pour le front. L'union sacrée a été de courte durée. Durant l'été 15 commence une nouvelle vague de grève qui culmine en février 1917. Et en fait, la guerre a contribué de façon importante à l'accélération des deux processus de polarisation que j'ai évoqués, déjà à l'œuvre avant 1914. À partir de février, début mars 1917, les ouvriers ont créé leurs propres organisations de classe, soviets, comités d'usine, syndicats, garde-rouge, milices, Proletkult, c'est-à-dire organisation de culture prolétarienne, ex nihilo, ou en donnant un nouvel élan à des groupements déjà existants. Faute de temps, je n'analyserai pas ici les développements bien connus survenus entre février et octobre 17. Aggravation des relations entre capital et travail, qui sape la stratégie menchélique de coalition avec la bourgeoisie libérale, progression de l'influence bolchévique dans les comités d'usine, dans les soviets, etc. J'insisterai seulement sur un point bien mis en lumière par un ouvrage récent axé sur l'histoire culturelle. C'est la domination croissante du discours de classe en 1917. Le langage universel des droits de l'homme, que beaucoup d'ouvriers utilisaient au début de l'année 17, n'a pas duré. De ce point de vue, le sens donné au mot démocratie est significatif. Au début, il englobait tout le peuple dans une république démocratique, mais il prit bientôt une signification sociale et enfin à désigner le peuple travailleur par opposition à la bourgeoisie et aux privilégiés en général. Après la révolution d'octobre, les organisations ouvrières ont été intégrées à l'appareil d'État. Le premier congrès pan-russe des syndicats qui se tient à Petrograd en janvier 18 opte à une écrasante majorité en faveur de l'étatisation. Désormais, les unions professionnelles se préoccupèrent avant tout de participer activement à la nationalisation des usines et de gérer l'industrie, dont elles ont disputé avec succès le contrôle au commissariat du travail. Avec le recul du temps, l'historien est frappé par la rapidité de ce processus d'absorption par le pouvoir. Elle s'explique en partie par la nécessité d'associer les ouvriers aux tentatives pour relever l'industrie, mais il est permis de se demander si elle n'est pas due aussi à la jeunesse du mouvement syndical en Russie, à sa faiblesse et à la domination en son sein des partis révolutionnaires. On sait en effet que les organisations professionnelles n'ont joué d'une semi-liberté qu'à partir de 1906. En novembre 1917, les bolcheviks jouissaient d'un soutien massif dans le prolétariat, comme l'ont montré les élections à l'Assemblée constituante, marquées par leur victoire dans les centres industriels, en particulier à Petrograd et à Moscou, et par la déroute des mencheviks. Mais la situation économique a continué à se détériorer après octobre 17. Après la signature du traité de Brest-Litovsk avec l'Allemagne en mars 1918, la réduction des commandes de guerre a entraîné la diminution de la production et la fermeture d'entreprises. Il s'en est suivi un chômage massif. La situation matérielle des travailleurs s'est dégradée. Il n'est donc pas étonnant que grèves et révoltes se sont multipliées au premier semestre de 1918, notamment dans la région industrielle centrale. Née du chômage et de la faim, elle protestait aussi contre la politique des bolcheviks. Au printemps 18, ces derniers ont perdu le contrôle de nombreux soviets de députés ouvriers au profit des socialistes modérés. C'est dans ce contexte qu'est né le mouvement des délégués qui a duré 5 mois environ. On considère en général qu'il est né début mars à Petrograd. Le 3 mars, dans un quartier de la capitale, une assemblée composée de mencheviks, de socialistes révolutionnaires et de militants sans parti a décidé de créer la réunion extraordinaire des délégués des fabriques et des usines de Petrograd. 10 jours plus tard, s'est tenue une autre assemblée de représentants élus dans divers établissements de la capitale de la ville ou désignés par les syndicats. Il a été résolu de transformer ces réunions en organisation permanente. Les leaders du mouvement se préoccupèrent ensuite de l'élargir à d'autres centres industriels en y envoyant des propagandistes. En même temps, en province, les militants socialistes s'activaient. Grève et manifestation de masse contre la politique du régime se sont développées. Le 9 mai, à Kolpino, ville industrielle située au sud-est de Petrograd, les gardes rouges ont ouvert le feu sur une foule désarmée d'ouvrières et d'ouvriers qui manifestaient devant le soviet local, mécontents du manque de nourriture et du chômage croissant. Des meetings de masse. Alors, les événements de Kolpino ont provoqué une vague de protestation dans les usines de Petrograd. Des meetings de masse et même des grèves dans quelques entreprises de l'ex-capitale et de sa banlieue. L'agitation, tout ça, aussi d'autres villes, dont Moscou. Elle dura jusqu'au début juillet. Elle était dirigée avant tout contre la répression bolchevique. Les revendications économiques n'y jouaient qu'un rôle mineur. Le 30 mai, Zinoviev, le patron de Petrograd, annonça une augmentation de la ration quotidienne de pain, mais cette concession d'ordre matériel ne calma pas l'agitation. Début juin, le bureau de la réunion des délégués de Petrograd décida d'organiser un congrès ouvrier à l'échelle nationale, conçu comme une alternative au 5e congrès des soviets, qui devait se tenir du 4 au 10 juillet 1918. Le 20 juin, Volodarsky, commissaire à la presse et à la guide propre du Soviet de Petrograd, fut assassiné. Ce meurtre entraînait une escalade de la répression. Ces mesures se heurtèrent à une forte résistance. Les bolcheviks répliquèrent en envoyant des troupes dans le district de la Neva, qui est un district de Petrograd, où l'état de guerre fut déclaré. Le soir du 26 juin, la réunion des délégués vota à l'unanimité en faveur d'une grève générale politique prévue pour le 2 juillet. Aussitôt, le pouvoir qualifia les arrêts de travail de criminels et contre-révolutionnaires et menaça de traîner les éventuels grévistes devant les tribunaux révolutionnaires. Perplexes, les ouvriers hésitaient, mais peu sûrs de leurs forces et de leurs objectifs, intimidés par les mesures gouvernementales, ils n'avaient pas le moral. Le matin du 2 juillet, presque tous les trains roulaient. Au dire même des organisateurs à Petrograd, 18 000 à 20 000 personnes ont suivi l'appel à la grève, soit environ un septième de la main-d'œuvre employée. L'échec était patent, d'autant plus que la direction du parti menchevique se désolidarisait de l'entreprise au dernier moment, par crainte de s'identifier à la contre-révolution. Cependant, les préparations du congrès ouvrier continuaient. Le 23 juillet, à Moscou, les participants à la conférence préliminaire à ce congrès, prévu pour les derniers jours du mois, furent arrêtés pour activité antisoviétique par la police politique. Cette dernière emprisonna aussi les mencheviks et les socialistes révolutionnaires délégués ou invités à ce congrès. Avant l'intervention de la police, la conférence eut le temps de discuter à fond et d'adopter une plateforme politique comprenant les points suivants. Rétablissement de l'industrie, liquidation du chômage, instauration d'un contrôle d'État sur la production au lieu de contrôle ouvrier. Les participants exprimèrent la volonté d'éloigner les bolcheviks du gouvernement sans verser de sang et de remplacer la régime soviétique par un pouvoir démocratique de tout le peuple, condition de redressement économique et social de la Russie. Les militants arrêtés risquaient la peine de mort, mais le 30 octobre 1918, Sverdlov, chef de l'État, ordonna la libération sous caution de 10 détenus. Ensuite, après 5 mois de détention, les poursuites judiciaires engagées contre tous les délégués cessèrent et ils furent relâchés. Comment expliquer cette défaite d'un mouvement légal et massif qui s'était développé au grand jour dans les usines? La vigueur de la répression y a certes contribué, mais d'autres facteurs y ont aussi concouru. Sa première faiblesse a été l'inégalité géographique de la mobilisation, beaucoup moins forte par exemple à Moscou qu'à Petrograd, pour plusieurs raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. En général, à la base, les militants socialistes étaient fortement présents dans le mouvement des délégués. Pourtant, les ouvriers ont tenu à garder la maîtrise de leur action. Les délégués prenaient volontiers la parole lors de réunions organisées par les partis socialistes et invitaient leurs représentants à leur assemblée. Ils tenaient les mencheviks et les socialistes révolutionnaires pour des alliés politiques importants, mais ils refusaient catégoriquement de suivre leurs revendications quant à la composition de leurs organes dirigeants ou au choix de leur mot d'ordre, et mettaient en garde leurs camarades contre toute servilité à l'égard des mencheviks aussi bien que des bolcheviks. Leurs réunions examinaient périodiquement des propositions visant à créer un parti purement prolétarien, échappant à l'influence de l'intelligentsia. L'historien retrouve ici une tendance déjà nette dans le mouvement ouvrier russe depuis les années 1890, le ressentiment et la méfiance envers la société cultivée, et la volonté de garder son indépendance vis-à-vis de ses représentants. Après octobre, les bolcheviks ont très vite déçu une partie du monde du travail, car ils n'ont pu tenir leur promesse d'améliorer la situation économique et sociale. Mais si leur influence a reculé, cela ne signifie pas que les prolétaires s'étaient purement et simplement ralliés aux positions socialistes. D'ailleurs, les connaissaient-ils dans toutes leurs nuances? C'est peu probable. En fait, ils étaient de plus en plus hostiles aux états-majors des partis, qui à leurs yeux étaient surtout occupés à lutter pour le pouvoir. Le salut des grands nous-mêmes devint un mot d'ordre central du monde ouvrier indépendant. Bien que fin mai 1918, les mencheviks aient cru la possibilité de renverser la régime bolchevique, la social-démocratie n'offrait pas d'alternative politique crédible, faute de réussir à convaincre que son programme économique permettrait d'enrayer la montée du chômage et la crise du ravitaillement. La social-démocratie ne promettait guère que de rétablir le système politique issu de la révolution de février 17. Or, en 8 mois d'existence, celui-ci n'était pas parvenu à résoudre les principaux problèmes posés au pays. Il faut ajouter que les bolcheviks n'avaient pas perdu toute capacité à mobiliser, loin de là. Ils ont certes fait appel à la Tchéka, la police politique, mais ont aussi obtenu dans de nombreuses usines le vote de résolution contre la grève du 2 juillet. Enfin, le déclenchement de la guerre civile fin mai 1918 à en resserrer les rangs autour du nouveau régime. Contrairement à la grève générale d'octobre 1905 qui avait arraché Nicolas II le manifeste des libertés, la réunion des délégués n'a pas pu obtenir de changement politique. Sa défaite signe l'échec des militants qui ont essayé de réagir contre la mainmise bolchevique sur les syndicats en recréant un mouvement à la fois organisé et indépendant de l'État parti. Cette défaite n'a pas pu contribuer à la destruction de la classe ouvrière qui s'est divisée lors de ce mouvement en fonction de l'attitude adoptée à l'égard du pouvoir. Comme l'a dit un historien russe, dès le 5 janvier 1918, la guerre civile est passée sur le corps de la classe ouvrière elle-même. Cette guerre civile a provoqué une forte chute des effectifs de la grande industrie. Le nombre d'ouvriers est passé de 3,6 millions en 1917 à 1,4 à 1,5 millions en 1919 et 1920. Cet effondrement résulte de plusieurs facteurs. Ruine de l'industrie, départ à la campagne et à la recherche de nourriture, enrôlement dans l'armée rouge, participation au détachement alimentaire, mais aussi promotion dans l'appareil d'État. Cette aspiration par le pouvoir a privé le monde du travail de ses cadres les plus actifs, tels ses membres des comités de fabrique, devenus en grand nombre directeurs d'entreprise. Le passage à la NEP parachève la destruction des libertés politiques. Les grèves de février-mars 1921 à Moscou et à Petrograd constituent la dernière protestation massive où les militants sociaux et joints vont actifs. Le pouvoir réagit en procédant à des arrestations massives parmi les opposants. Mouvement libertaire et parti SR de gauche cessent bientôt d'exister en Russie. Les leaders SR décident en 1923 de dissoudre leur organisation. Quant aux Mensheviks, la dernière réunion légale de leur comité central se tint à Moscou le 3 juillet 1923. Ils réussirent cependant à publier des journaux clandestins jusqu'en 1927. La capacité des prolétaires à s'affirmer comme acteurs collectifs a également été affectée par l'évolution des syndicats. Après octobre, sauf exception, ils avaient cessé de donner la priorité à la défense des intérêts des salariés. La NEP a marqué un retour limité à la conception classique du syndicat. Le droit de grève a été reconnu dans le secteur privé et de façon restreinte dans les entreprises d'État. Mais la subordination des organisations professionnelles au parti bolchevique a été clairement réaffirmée. En 1922, le 11e congrès du passé soviétique a décidé que seuls les communistes ayant une certaine ancienneté dans le parti pourraient accéder à la direction des syndicats. Le peu d'autonomie que ces derniers ont conservé sous la NEP a disparu lors de la purge de 1929. Pour mieux mesurer comment la politique des bolcheviques a brisé les formes de solidarité entre les hommes, il serait intéressant d'examiner le destin du mouvement coopératif après octobre, mais je n'ai pas le temps de le faire. Tel est donc le bilan de la période 1918-1921, que la NEP n'a pas vraiment remise en cause. En quelques années, la foisonnante vie démocratique de l'année 17 s'est tarie. Les soviets ont perdu le pouvoir réel au profit du parti bolchevique. La nationalisation de l'industrie a mis fin au contrôle ouvrier. Les organisations indépendantes ont été supprimées ou absorbées par l'État. Dès lors que les institutions représentatives du mouvement ouvrier ont disparu, il est permis d'affirmer que la classe ouvrière russe a été détruite en ce sens qu'elle ne disposait plus de porte-parole autonome, susceptible de constituer le monde du travail en groupe social mobilisé. C'est sans doute à ce processus de destruction que pensait le bolchevique Bogdanov lorsqu'il parlait de névrose du tissu de la classe ouvrière. Certes, le parti bolchevique était bien implanté dans le prolétariat industriel, mais très vite, après octobre, il se soude à l'appareil d'État et combat énergiquement toute protestation populaire. Dans les années 20, le langage de classe avait changé de sens, dans la mesure où il avait perdu son caractère contestataire et ne pouvait plus formuler et légitimer les doléances ouvrières à la façon d'avant avril, d'avant 1917. Tenu par les dirigeants, le langage de classe visait en effet à mobiliser la population contre les ennemis, et il rencontrait des points déniables à la base. Staline, par exemple, a exploité habilement la haine à l'égard des spécialistes bourgeois en organisant le procès de Charty en 1928 contre des ingénieurs du Donbass accusés de sabotage. Mais l'ouvriérisme officiel n'empêche nullement que les grèves soient réprimées sous la dette, comme elles l'avaient été pendant la guerre civile. Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie.